Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Vous êtes en direct, allez-y.
Des prévenus surmédiatisés, les tribunaux, en ont vu des centaines depuis le 19e siècle, transformant les audiences en spectacles où se pressent badauds et journalistes. Mais le cas Jawad Ben Daoud est à part. Au matin du 18 novembre, en plein assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis, le type accoste les journalistes de l'AFP d'abord, de BFM TV ensuite, et leur déclare tout à trac qu'il est le logeur des terroristes du Bataclan. Moment de télé surréaliste, diffusés en boucle sur les chaînes d'infos, mais surtout repris et parodiés ad nauseum sur les réseaux sociaux. Jawad devient une sorte de bouffon médiatique qui enchaînera prison et procès où à chaque fois la presse assiste à sa plongée aux enfers psychologiques.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et mes invités, bonjour à tous les deux, c'est Sarah Brett, soyez bonjour. La bienvenue, journaliste à Bobigny pour l'agence France Presse. Vous êtes la première à avoir recueilli le témoignage de Jawad. Vous serez demain à la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour un nouveau procès, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. À vos côtés, Jean-Baptiste Boursier, bonjour.
Bonjour Sonia.
Visage bien connu des téléspectateurs de BFM TV, chaque soir de 22h à minuit avec Grand Angle. Créneau de reportage qui reviendra d'ailleurs ce soir dans le grand reportage de 22h45. Sur ce parcours qu'on pourrait qualifier de médiatico-judiciaire. Sinon, salut à toi Romain Nigita.
Bonjour Sonia De Villers.
Voilà, indispensable pour nos mardis en série. Un mot d'actu d'abord.
Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom.
Le choix de mon nom ?
Oui madame, celui que vous déciderez de porter en tant que reine.
Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth.
Soit. Longue vie à la reine Elisabeth.
Elisabeth II, racontée dans The Crown, saison 2 sur Netflix. Moi, je suis archi fan. Netflix, d'ailleurs, dans l'actu, annonce 117 millions d'utilisateurs dans le monde, 24 millions supplémentaires en un an. 8 milliards de dollars seront d'ailleurs investis en 2018 dans des contenus rachetés ou des créations originales. Enfin, et ça, c'est une petite ironie de l'histoire, Rodolphe Belmer, ancien patron de Canal+, viré par Bolloré, devient membre du conseil d'administration de Netflix. Il est par ailleurs le PDG de Telsat. Romain Nigita, dans vos mardis en série, énorme coup de cœur pour vous aujourd'hui. Et enfin, on va tous pouvoir le voir, This Is Us, saison 1 qui démarre demain soir sur Sister. Sister, c'est une filiale du groupe M6, c'est une chaîne de la TNT, elle est gratuite. Histoire d'une famille américaine sur deux générations.
Deux générations avec les parents dans les années 80-90, alors que leurs enfants sont encore jeunes. Et en parallèle, la vie des enfants aujourd'hui, alors qu'ils sont devenus adultes. Première particularité, les enfants sont des triplés qui vont rester très soudés.
Kevin, je te connais depuis le jour de notre naissance. Enfin, à part pendant 2 minutes au début. Tout ce que t'as essayé, tu l'as toujours réussi.
Je peux te poser une question ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant 2 minutes sans toi ?
Au moins, t'as chialé et tu t'es pissé dessus.
Ah ouais, c'est bien possible, ouais.
Et deuxième particularité, l'un des trois triplés a en fait été adopté à la naissance et il est noir au sein d'une famille blanche.
Tout le monde trouve ça bizarre qu'on soit frère.
Écoute, laisse les autres penser ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance. C'est ton petit frère, Kevin. Vous devez être là l'un pour l'autre, d'accord ? C'est compris.
C'est donc une saga familiale particulièrement émouvante, un bijou d'écriture et d'interprétation. Et comme le récit n'est pas chronologique, eh bien il réserve beaucoup de surprises.
Alors je l'ai dit, on va le voir sur Sister, c'est de la TNT, c'est gratuit. Mais en fait aux États-Unis aussi, c'est sur NBC et c'est gratuit.
Oui, puisque NBC c'est l'équivalent américain de nos TF1 ou de nos M6. Et This Is Us marque la revanche des séries dramatiques des chaînes gratuites face aux séries de prestige qui sont lancées par le câble et les plateformes payantes, ouais. C'est-à-dire les HBO et Netflix. Et pourtant ne croyez pas que les chaînes gratuites et généralistes américaines, celles qu'on appelle les networks, se limitent aux séries policières, pas du tout. Autre exemple, depuis la rentrée, par exemple, ABC, une chaîne concurrente d'NBC, diffuse The Good Doctor, un énorme succès, plus de 10 millions de téléspectateurs par soirée. C'est l'histoire d'un brillant chirurgien de 24 ans qui s'avère être autiste. Et on verra ça prochainement sur TF1.
Voilà, c'est ce qu'on appelle de la feel-good TV, c'est-à-dire de la série dramatique qui fait du bien. Alors revenons à This Is Us, c'est aussi de la feel-good série, This Is Us.
Totalement.
Totalement feel-good. Ça vient des chaînes gratuites, ça n'empêche que ça a quand même même raflé le trophée hyper prestigieux du syndicat des acteurs américains. Ça s'est passé dimanche.
Et c'était la première fois depuis 2006 et depuis la série Grey's Anatomy que ce prix était attribué à une série de network. Entre temps, les séries récompensées venaient du câble. C'était Les Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, hein, c'est-à-dire quand même un très bon
la
niveau.
Crème de la crème.
La crème de la crème. Ouais. Et par ailleurs, Sterling K. Brown, l'acteur qui joue Randall, le triplé adopté, est devenu le tout premier acteur noir à être sacré meilleur acteur dramatique de toute l'histoire de cette cérémonie, les Screen Actors Guild Award. C'est vraiment un comédien extraordinaire parce qu'il a déjà gagné un Golden Globe et un Emmy Award pour ce même rôle, c'est-à-dire la panoplie complète des récompenses les plus prestigieuses de la télé américaine.
C'est le tableau de chasse. Merci beaucoup. Romain, This Is Us, la saison 1 à voir demain sur Sister, la saison 2 qui est diffusée d'ailleurs en direct des États-Unis, ça c'est sur Canal Plus Série, il faut un abonnement. Et puis sinon, The Good Doctor, l'autre feel good série dont vous nous avez parlé, ce sera très prochainement sur TF1.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Voilà, on vous raconte ce matin dans l'Instant M une affaire médiatico-judiciaire, c'est l'affaire Jawad. Sarah Berthe, vous étiez la plus proche cette nuit-là. L'AFP vous réveille à 4h30 du matin, vous foncez rue Corbillon, à 100 mètres de l'immeuble que les forces de l'ordre prennent d'assaut. Vous entendez d'ailleurs les balles siffler. Je vous cite, puisque vous venez de publier un making-of de cette nuit qui vous a marqué. Quand un trentenaire aux cheveux gominés, sacoche en bandoulière, torse bombé et langue bien ponée, pendu s'approche de moi. « T'es journaliste ?» demande-t-il. « C'est chez moi que les flics sont en train de tout casser et vous, vous êtes incrédule. Vous avez juste le temps de sortir un carnet et un stylo. »
Oui, je suis parfaitement médusée parce que c'est vrai que je m'attends à tout sauf à ça ce matin-là. Ça fait déjà deux bonnes heures, je dirais, que je suis près du cordon de police à entendre les balles siffler et à attendre finalement parce qu'on attend ce matin-là. Et effectivement, je suis avec une jeune fille que j'ai interviewée et un ami l'a rejoint. Donc voilà, vous venez d'en faire la description. Et donc c'est lui qui m'aborde et qui me demande si j'ai des photos des occupants de l'immeuble où a lieu l'assaut du raid. Donc je lui réponds que non, évidemment je n'ai pas de photos. Et là, donc effectivement, il m'explique que c'est chez lui que la police est en train de tout casser. Et il est vraiment furieux en fait. Il est furieux.
Il est en colère. Et il vous dit, un pote m'a demandé de loger des potes à lui. J'ai dit qu'il n'y avait pas de matelas. Ils m'ont dit, c'est pas grave. Il voulait juste de l'eau, juste de l'eau et un endroit pour faire la prière. Et vous, vous lui répondez, et ça, ça t'a pas mis la puce à l'oreille?
Oui, parce que, enfin, là, je veux dire, je parle spontanément parce que il faut bien voir qu'on est trois jours après les attentats. On est complètement, enfin le pays est complètement traumatisé. On ne pense qu'à ça. Moi personnellement, j'ai travaillé les jours qui ont suivi, donc j'ai très peu dormi. Et donc il me dit ça. Il me dit, il voulait juste un endroit où prier et où avoir de l'eau. Et je me dis, pour moi, c'est tellement évident que ce sont des gens en cavale et dans le contexte qu'on connaît, on sait qui est en cavale à ce moment-là. Que je lui dis, effectivement, ça t'a pas mis à la puce à l'oreille, c'est pas possible. Et il me répond, oui, effectivement, j'ai trouvé ça bizarre. Et là, c'est vrai que je suis parfaitement médusée. Et je sors mon carnet, parce que j'ai re-rangé mon carnet dans mon sac, parce qu'il se passe plus rien depuis un petit moment. Et là, je commence à renoter ces phrases absolument hallucinantes.
Alors, vous vous ruez aussi sur le téléphone, vous appelez la rédaction de l'AFP, vous commencez à dicter une dépêche en vous disant, en leur expliquant que là, manifestement, vous avez du lourd et que vous pensez que le type est sincère, parce que vu la tête du type et vu ses propos, de toute façon, vous êtes obligé d'en faire état à votre rédaction en chef. Et puis à peine vous vous retournez qu'il est déjà en train de parler aux caméras de BFM TV. Ça donne cette séquence qu'on a vue et revue des centaines de fois.
J'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchaient chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes.
Et expliquez-moi, vous habitez où?
J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré.
Et comment vous expliquez que ces personnages se retrouvent chez vous?
On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours, et j'ai rendu service normalement, je ne sais pas d'où ils viennent, d'où... On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés?
Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique?
Non, je ne savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous.
D'accord. Et vous les connaissiez, ces personnes?
Non, je ne les connais pas du tout, ni d'avant, ni de... Oh là là.
Jean-Baptiste Boursier, donc visage de BFM. Sarah Berthe vient de nous dire qu'elle avait peu dormi depuis trois jours. À BFM non plus, on n'avait pas dormi depuis trois jours. On était en breaking news, en édition spéciale depuis plusieurs jours. Donc tout ça s'est produit en réalité en direct, sans que personne ne s'y attende. Ça a surgi devant vos caméras et il faut raconter cette séquence en entier puisque vous allez y revenir ce soir dans Grand Angle. La séquence se finit, il est menotté et embarqué par les flics les caméras.
Exactement, quand il s'interrompt, en fait, il y a un policier qui vient le chercher et donc la séquence s'arrête là de façon un peu surréaliste. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a Timothée Leblanc qui est sur place, qui est un de nos journalistes. Et effectivement, il entend Jawad Ben Daoud qui est en train de parler avec Sarah et donc il allume sa caméra, elle se tourne vers lui et capte cette scène qui est complètement irréelle. Effectivement, Sarah le rappelait, le pays entier est complètement choqué. Il y a ce mélange de peur, en même temps d'envie d'information autour de ce sujet et cet homme qui est déjà en trois secondes, c'est un personnage et ça se voit. Et qui, alors, pour des raisons...
Et surtout, vous le précisez bien, et l'un et l'autre, il est venu spontanément à vous. Il cherchait des journalistes à qui parler.
Il y a quand même un ressort psychologique qui est extrêmement étrange. Et c'est ça qui fait que ce personnage naît et ensuite il devient lui-même un mème sur Internet. Et c'est une forme de catharsis, en fait. Je sais pas, qui est sans doute lié à la peur, qui est sans doute lié à plein de choses. Mais imaginez que cet homme, c'est un vendeur de sommeil, qui a déjà été arrêté, qui est donc en train de loger des terroristes. Il nous explique qu'on lui a demandé de le faire, que lui très gentiment a accepté. Et donc c'est pour ça qu'il devient ce personnage fou, parce que lui-même se rue vers les médias en fait.
Alors on va en reparler, la façon dont ça a été parodié sur Internet, mais quand même un mot, est-ce que Sarah, vous sillonnez le 93 pour l'agence France Presse, est-ce que la présence d'une caméra et de surcroît une caméra de BFM TV, ça suscite ce genre de choses parfois, ou est-ce que ça change le rapport des témoins, la façon dont les gens veulent témoigner spontanément?
Oui, alors moi ça fait déjà 15 ans que je fais ce métier et c'est vrai que les chaînes d'infos en continu et notamment BFM, ça a complètement changé la manière de travailler. Moi ce que je remarque, alors voilà, j'ai pas prétention à connaître la banlieue, mais je trouve que voilà, BFM maintenant est vraiment rentré complètement dans le décor et dans les foyers, dans tous les foyers, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'animosité particulière envers les caméras de télévision, ce qu'on pourrait penser, alors sauf dans certains quartiers particulièrement compliqués, mais c'est vrai que la caméra de BFM elle attire et que la plupart des gens aujourd'hui je pense veulent passer à la télé, veulent se voir à la télé, et c'est vrai que là, ce jour-là, Jawad Ben Daoud y cherche. Je pense qu'il cherche d'abord des informations parce que il veut la confirmation que c'est bien chez lui qu'a lieu l'assaut, et il veut, je pense aussi certainement passer à la télé quelque part et se défendre, hein, parce que l'idée c'est quand même ce qu'il dit. Mais moi, je ne savais pas, je ne savais rien.
Résultat, il aggrave son cas et c'est lui qui attire la lumière sur le personnage qu'il deviendra. Jean-Baptiste Boursier vous l'a dit, il va devenir un mème. C'est une figure reproduite et partagée à l'infini sur les réseaux sociaux où son image est détourné, je vous l'ai dit, c'est ad nauseum. On vous a choisi deux extraits, il y en avait des dizaines.
Proposer des bergers, je ne le ferai plus jamais.
J'ai rendu service normalement, je ne sais pas d'où ils viennent, d'où... On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés?
Visiblement, cet homme est épuisé, et il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule.
Proposer des bergers, c'est décidé, c'est terminé.
Jean-Baptiste Boursier, et là, il y a deux histoires médiatiques en parallèle, celle des chaînes de télévision et des réseaux sociaux qui rediffusent la séquence BFM TV avec le logo BFM TV tel qu'il a été diffusé sur votre antenne. Et puis, pendant ce temps-là, toute cette parodie sur Internet, accompagnée d'un compte Twitter, le logeur de Daesh, 50 000 abonnés en 5 jours. J'ai vérifié, il est toujours actif. Des soirées pyjama chez Jawad organisées sur Facebook. Les deux montent en réalité en parallèle.
Ouais, les deux montent en parallèle parce que encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, et Sarah l'a très bien expliqué, la France a peur, quoi. Il se passe quelque chose qu'on ne connaît pas, on est traumatisé par ce qu'on a vécu, et je pense qu'il y a vraiment aussi un besoin de se saisir du sujet, de le tordre et d'en faire quelque chose de différent, et d'en faire quelque chose qui donne aux gens un sourire. Et ce personnage arrive, c'est un personnage, j'utilise ce mot à dessein, au moment où il se présente, c'est pas un suspect, c'est un personnage, il est lui-même quelque chose de fiction, il se fictionnalise tout seul, les propos qu'il tient, l'endroit où il les tient, son comportement, ce qu'il est physiquement, ce qu'il dégage.
L'Humanité titrera le bouffon d'une république meurtrie. D'autres analystes parleront d'un guignol exutoire. Sarah Brett, pour vous, ça a été une histoire au long cours, c'est-à-dire que vous avez continué de suivre alors le parcours judiciaire de Jawad Ben Daoud, qui a été émaillé de procès et d'audiences. Vous racontez la foule des journalistes au tribunal de Bobigny, où il est jugé pour trafic de cocaïne. Vous racontez un procès délocalisé dans la grande salle d'assises, réservée d'habitude aux procès criminels. Vous dites à quel point ça rigole, à quel point, quand on entend des cris et des insultes venus du dépôt, les journalistes n'attendent que ça, ils sont venus pour ça.
Je crois qu'effectivement, alors ça se passe en janvier 2017, on est plus d'un an après les attentats, donc Jawad Ben Daoud, il a complètement disparu de la circulation. D'ailleurs, personne ne connaît son nom, on l'appelle Jawad.
On l'appelle le logeur de Daesh.
Tout à fait. Donc il s'est passé plus d'un an, parce qu'il faut savoir qu'après cette fameuse interpellation sous la caméra de BFM, il a passé 7 jours et 7 nuits en garde à vue.
144 heures.
Voilà. Son ami également était avec lui, donc ils ont passé tous les deux 7 jours et 7 nuits en garde à vue. Et ensuite, il a disparu de la circulation. Et nous, on le voit ressurgir dans ce qu'on appelle dans les rôles du tribunal de Bobigny, qu'on épluche pour voir les procès, et on voit apparaître le nom de Jawad Ben Daoud. Et je vois qu'il est jugé pour trafic de drogue. Alors, je comprends pas bien, parce qu'en plus, les dates sont celles de l'assaut de Saint-Denis. Et en fait, on comprend que pour sa défense, en garde à vue. En gros, pour dire je ne suis pas un terroriste, il a dit moi je suis un simple dealer de Saint-Denis, je vends de la cocaïne, etc. Et les magistrats l'ont pris au mot, ils l'ont renvoyé en procès. Et donc en janvier, un peu plus d'un an après la fameuse vidéo, il arrive au tribunal de Bobigny.
Et là c'est le cirque.
Et là, c'est le cirque. Là, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et puis, il y a eu les lettres aussi, parce que il y a eu des lettres qui ont fuité. Il a écrit au juge d'instruction depuis sa cellule des lettres sans queue ni tête, où il dit notamment être le bouc émissaire, bouc émissaire.
Bouquet comme un bouquet de
fleurs.
Voilà,
exactement comme un bouquet de fleurs. Donc voilà, donc encore, on rit de Jawad, on se moque, etc. Et donc, il y a beaucoup de monde pour le voir. Et c'est
vrai. Vous, journaliste sur le banc des chroniqueurs judiciaires, vous écrivez, j'en ai mal au ventre d'avoir ri moi aussi.
Oui, parce que la scène, elle est extrêmement violente, parce qu'on le voit arriver. Déjà, on entend ces cris qui montent du dépôt, parce que le dépôt est au sous-sol. Donc, on entend les cris qui montent et on le voit arriver. Et il est méconnaissable. C'est-à-dire, ce n'est plus le Jawad de la vidéo. Il a les cheveux longs. Il a pris 20 kilos, je pense. Mmh. Il est vraiment méconnaissable. Et il arrive et il est en larmes et il est ivre de colère. Il est rugue, etc.
C'est un type qui est complètement détruit psychologiquement.
Il est complètement détruit psychologiquement. Alors après, je pense qu'il n'était pas sain d'esprit auparavant.
Non, il avait manifestement l'air déjà assez fragile. D'ailleurs, vous racontez que la présidente, qui est assez patiente à son égard, parce que lui est complètement ingérable, l'interroge sur des projets de réinsertion. Et lui dit, je vais sortir, je vais faire quoi? Je peux rien faire en France. Tout le monde me regarde bizarre, les infirmières, les jeunes en garde à vue. Hier, j'ai regardé le Jamel Comedy Club à la télé, et même eux, ils se foutaient de ma gueule. Jean-Baptiste Boursier, justement, dans la story que vous allez raconter dans Grand Angle ce soir, c'est un moment de recul sur les effets aussi de la surmédiatisation, parce que un prévenu très médiatisé, ça arrive. Le cas de Jawad, c'est vraiment une histoire particulière.
Nous, ce qu'on fait
dans
ce soir, à 22h45 dans notre reportage, c'est on va reprendre son histoire, son parcours. Mmh. Il a un parcours judiciaire, Sarah l'a rappelé, avant cette scène surréaliste. C'est un personnage qui a une psychologie, on l'a bien compris, qui est assez complexe, et on va revenir là-dessus, la façon dont il l'a accompagné, malgré lui, la France, dans ce moment-là. En fait, ce à quoi il faut penser, c'est
ça, il est devenu le visage médiatique clé, ou l'un des visages médiatiques clés de cette affaire, malgré lui.
Mais à ce moment-là, il n'y a personne. Il n'y a personne. La France a été touchée et on sait comment on l'a tous vécu de façon extrêmement violente. Il n'y a pas un visage, pas un nom à mettre sur ce drame. Donc il est le premier visage, le premier nom qu'on va mettre sur ces attentats. C'est quand même la première personne qui se déclare lui-même actif, partie prenante de ce drame. Il le fait de son plein gré face aux caméras. Et donc la France se dit, on tient enfin quelqu'un. Et il se trouve qu'il a cette personnalité, donc il va devenir ce même. Donc on va raconter tout ça ce soir, on va revenir sur sa personnalité, essayer de comprendre comment il est devenu ce personnage incroyable dans cette histoire que...
Et je précise ce que vous soulignez d'ailleurs, Sarah, dans votre making-of de journaliste de l'AFP, qu'il y avait eu demande de ses avocats pour que les 3 semaines d'audience qui démarrent demain se tiennent à huis clos, justement pour l'éloigner de la sphère médiatique, et que ça a été refusé par les juges. Merci beaucoup à tous les deux. Sarah Brett, on publie un lien sur la page de l'émission pour que nos auditeurs puissent lire votre making-of, et on vous renvoie tous 22h45 pour le grand reportage du Grand Angle de Jean-Baptiste Boursier.